Philippe Wächter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Natixis Asset Management. On va parler avec vous d'économie, de perspectives économiques. On va commencer par la France avec ses chiffres de croissance nulle au premier trimestre. On entend parfois, on voit écrire parfois la France le malade de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur le plan économique, est concret?
Ben, ce qui est très problématique, c'est qu'on a 0 en France, on a 0,8 en Allemagne, et ce qu'on observe, c'est une divergence assez forte. Et quand on regarde le détail des chiffres du premier trimestre, la France est fragilisée parce que sa demande interne, sa consommation, son investissement s'infléchissent, alors qu'en Allemagne, on a une évolution inverse. En d'autres termes, on a un rapport de force qui bouge, et là où c'est problématique pour l'économie française, pour la France, d'une manière générale, c'est que le couple franco-allemand devient de plus en plus déséquilibré, et dans la construction européenne, on sait que ce couple est extrêmement important. Donc là, pour moi, l'élément clé, au-delà de l'effet conjoncturel, il est sur cet aspect, et on observe, c'est pas simplement sur le trimestre, sur le premier trimestre 2014, on perçoit cette divergence, et c'est ça le plus problématique.
Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé les solutions, effectivement, pour un retour à plus de croissance, parce que là, l'objectif annuel, il est quand même assez faible du gouvernement, même s'il est peut-être trop ambitieux encore.
Il est probablement ambitieux. 1% de croissance, au regard du chiffre qu'on a eu sur le premier trimestre, ça suppose 0,5% de croissance à chacun des trois trimestres restants pour l'année 2014. C'est un objectif assez ambitieux. Le faire sur un trimestre, probablement. Le faire sur trois trimestres de suite, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Et de ce fait-là, les objectifs de politique économique, de déficit public vont être probablement révisé. Il va falloir regarder un petit peu différemment parce que le seuil, l'objectif de 1% sera probablement pas atteint et ça va poser un certain nombre de questions. Après, il y a la question de la politique économique. Ce qu'on voit dans la dynamique de l'économie française, c'est que la demande privée est très faible. On a une inflexion, notamment au premier trimestre, mais même à la fin de l'année 2013, on n'avait pas quelque chose de très robuste. Ça veut dire que malgré tout, on a un peu de croissance sur l'économie française. Et comme le commerce extérieur contribue pas ou peu, ça veut dire que les dépenses publiques ont un rôle majeur dans la dynamique de l'activité. Et donc là, on a quelque chose de très particulier sur lequel il faut être attentif. Normalement, quand on regarde sur longue période, le profil de l'économie est conditionné par la demande privée, par la consommation, par l'investissement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en matière de politique économique, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'inverser les hiérarchies, faire de telle sorte que la demande privée soit effectivement le principal contributeur de la croissance, ce qui n'est pas le cas. Mais dans le même temps, réduire les dépenses publiques trop rapidement, c'est prendre un risque, effectivement, sur la croissance, compte tenu du rôle tenu par ces dépenses dans la dynamique de croissance. Donc l'objectif, la façon dont la politique économique va être menée est assez compliquée.
Est-ce qu'il y a des exemples étrangers ou qu'on pourrait prendre justement effectivement en illustration qui montrent que c'est possible? Parce que là, on a l'impression qu'effectivement, on voit pas de solution à court terme.
D'exemples étrangers, pas spontanément, mais on voit bien l'objectif qui a été fixé via le CICE, via les mesures, le pacte de responsabilité. Tous ces éléments était de dire, ben voilà, faisons un effort sur les entreprises pour que l'investissement redémarre et qu'effectivement cela tire la demande privée vers le haut. Ce qu'on observe pour l'instant, c'est que c'est un peu, il y a une espèce de petit cafouillage. On avait eu un espoir à la fin de l'année 2013 avec un rebond de l'investissement des entreprises. Ça n'est pas le cas au premier trimestre. Et donc ça veut dire qu'il faut agir vite, rapidement et de manière efficace pour que, effectivement, les entreprises prennent en compte l'amélioration qui est proposée par le gouvernement, que celle-ci se mette en place très rapidement pour qu'on ait, effectivement, une inflexion à la hausse. C'est ça le challenge des prochains mois pour la politique économique.
Alors, on va reparler de questions de confiance. Alors, si on s'éloigne un petit peu de la France, qu'on regarde les États-Unis, est-ce que, de votre point de vue, justement, là, on peut avoir des bonnes nouvelles? Il y a ceux qui disent, finalement, attendez, ça va être la reprise, elle est là, elle va même être plus forte que prévu, vous allez être étonné de ce que vous allez voir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut penser?
Ben, les signaux qu'on a aujourd'hui aux États-Unis sont positifs. On a eu cette période du premier trimestre un peu compliquée avec les aléas climatiques, etc., qui ont pénalisé la croissance, mais voilà, les chiffres qu'on a sur le mois de mars, sur le mois d'avril, sont des chiffres plutôt, plutôt robustes. Et donc, on a une dynamique de croissance, un profil, une trajectoire de croissance qui est plutôt robuste aux États-Unis, qui n'est pas explosive. Hein, on n'est pas sur des sorties de récession comme on a pu en connaître en 83 ou avec des accélérations très brutales. Non, on est sur un rythme probablement voisin de 3%, avec un deuxième trimestre qui va être fort, qui va compenser le premier, mais on est aux alentours de 3%. C'est ce qui incite la Federal Reserve, la Banque centrale, à être beaucoup plus sceptique sur une politique très accommodante. Hein. C'est le discours qui est tenu depuis Bernanke au Congrès au mois de mai 2013, de dire voilà, l'économie américaine va mieux, on va normaliser progressivement la politique monétaire. C'est ce cadre-là. Est-ce qu'on va avoir une accélération très brutale? J'en suis pas persuadé spontanément, parce qu'on voit bien que le marché du travail est quand même très lent à se dérider, que le revenu des ménages a du mal à décoller de façon significative. Donc on n'a pas encore cette rupture à la hausse dans les déterminants du comportement des ménages.
Alors du côté des marchés émergents, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de différents marchés émergents, hein, on ne peut pas les résumer en un seul, en quelque sorte, en une seule zone. Quand on regarde la Chine, il y a eu, là on a vu la croissance des crédits, pratiquement deux fois le rythme de croissance du pays produit intérieur brut de la Chine. On se dit que finalement, est-ce qu'il y a vraiment un changement de modèle qui est en cours ou pas? Certains disent finalement ça n'a pas encore eu lieu, le deleveraging n'a pas encore eu lieu.
Alors, il y a plusieurs choses sur l'économie chinoise, et c'est en cela qu'elle est compliquée. Le modèle de base de croissance lié à l'investissement et à l'exportation n'est plus le bon modèle. On le voit quand on regarde le profil de l'investissement productif, le profil des exportations. On n'est plus du tout dans ce qu'on observait avant la crise. Le basculement vers la consommation est lent à se mettre en place. En d'autres termes, on a une allocation de ressources qui doit s'opérer et qui est difficile à mettre en place. Et on voit bien Xi Jinping, le président chinois, le week-end dernier, a indiqué qu'il n'allait pas mettre en place des mesures de relance très vives, parce que justement pour ne pas modifier, pour ne pas altérer cette réallocation de ressources. Donc n'attendons pas une accélération brutale de la croissance. Mais ce qu'on constate aussi dans cette période, c'est que il y a toute une série de déséquilibres sur l'immobilier et sur les crédits, comme vous l'indiquez, qui pénalisent l'économie chinoise, parce que c'est quelque chose, on le voit bien dans les préoccupations de la Banque centrale de Chine, comment essayer de comprendre comment maîtriser ces évolutions de crédit. Et c'est ça, aujourd'hui, la grande difficulté, le grand déséquilibre de l'économie chinoise, c'est d'avoir créé une sorte de bulle de crédit après la relance de 2009 et d'être aujourd'hui, d'une certaine manière, dans l'incapacité de la maîtriser. Ça va être l'enjeu des prochains mois sur l'économie chinoise. Réussir à faire la transition sur le modèle de croissance et à maîtriser cette dynamique monétaire.
Un mot pour terminer sur le Japon. Ça a été regardé avec intérêt avec les fameuses Abenomics. Ça a été, on peut dire, mondialement regardé, ce qu'a fait le Japon. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne et est-ce que ça va fonctionner dans les prochains mois pour l'économie japonaise?
Moi, je ne crois pas. On a eu un chiffre de croissance qui a été fort sur le premier trimestre, chacun s'attendant à une augmentation de la TVA et s'est mis à consommer. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais ce qu'on constate, la vraie problématique sur le Japon est du côté du consommateur. Le consommateur a vu l'inflation s'accélérer, son salaire ne s'est pas améliorer. Et on a vu dans le même temps, on a vu au mois d'avril qu'avec la hausse de la TVA, l'inflation s'était brutalement accélérée, ce qui est normal. Mais ce qui veut dire aussi que le pouvoir d'achat du salarié japonais va s'infléchir. Donc il a consommé beaucoup au premier trimestre, il va probablement beaucoup moins consommer au deuxième. Et la question posée à côté, c'est de se dire, est-ce que finalement, après une politique monétaire très accommodante, une politique budgétaire qui l'a été, qui l'est moins aujourd'hui, est-ce que finalement la troisième flèche des Abenomics va être mise en place? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et cette troisième flèche, c'est tout simple. C'est-à-dire, on est dans une population qui vieillit, une économie qui vieillit. Il faut trouver le moyen de remplacer la population active pour qu'elle se rajeunisse, qu'elle soit plus productive. Pour l'instant, on ne voit pas d'éléments sur ces questions. Et donc, le risque, c'est que l'inflexion qu'on va avoir au deuxième trimestre sur la croissance japonaise soit une inflexion forte et durable et que, finalement, l'économie japonaise ait du mal à repartir de l'avant au cours des prochains mois.
Merci Philippe Bechter d'avoir été avec nous.
Merci.